Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi aujourd'hui pour vous proposer un petit aperçu de la fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier à la salle de l'Hexagone, un événement culturel organisé chaque année depuis maintenant plus d'un quart de siècle par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois. Nous allons donc aujourd'hui et samedi prochain vous proposer un certain nombre d'entretiens enregistrés et réalisés sur place avec quelques-uns des écrivains présents à cette fête du livre d'Autun. Et je vous propose d'ouvrir notre émission avec Liliane Mosca, qui fait paraître aux éditions des Presses de la Cité, dans la collection Terre de France, un nouveau roman intitulé « La jeune fille au silence ». Il s'agit de la vie de Fanette, une vie marquée du sceau du secret, le drame de la différence à travers le portrait tout en sensibilité d'une jeune fille issue du monde rural au début des années 70. Explication par l'auteur en personne, Liliane Mosca.
C'est issu d'une histoire vraie, d'une personne qui m'a raconté ce premier secret de Fanette, son premier silence, que je ne peux pas révéler parce que ça enlèverait tout le charme de la première lecture. Donc ça se passe à Druy-les-Belles-Fontaines, petit village de Lyon que je connais bien, j'ai une amie qui y habite. Et je trouvais que c'était un très beau décor pour mon roman.
Alors, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui rencontre un jeune homme brillant, cultivé, qui fait des études de philosophie. Et évidemment, c'est une histoire d'amour qui va s'avérer peu possible. Parce qu'il y a, un mystère chez cette jeune Fanette qu'on ne peut pas révéler et que les auditeurs et futures lectrices et lecteurs ne peuvent que découvrir dans ce nouveau roman intitulé « La jeune fille au silence ».
Tout à fait, on ne peut pas le révéler. Donc l'amour naissant de Théotime et de Fanette va être un peu bouleversé par ce secret qu'elle ne voudra pas, elle ne peut pas le révéler en fait, elle ne peut pas. Donc ils vont aller chacun de leur côté et ce qui sera, ça va générer une autre histoire en fait dans la deuxième partie du livre. L'histoire de Fanette qui sera débarrassée de son secret et qui pourra vivre enfin sa vie.
Une véritable liberté intellectuelle et sentimentale à découvrir. Donc, La jeune fille au silence, le dernier roman de Liliane Mosca. Alors, ce n'est pas le premier de vos romans dont l'action se situe dans Lyon. On rappellera qu'il y avait eu Les Amants de Mône. Alors, Mône, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est dans le Tonnerrois, ce beau château de Mône, Liliane. Pas très loin aussi d'un village où vous avez passé une grande partie de votre adolescence.
Tout à fait, en Silfrant, donc j'ai situé les Amants de Maulne entre les deux, entre Maulne et en Silfrant.
Et puis les Amoureux de l'Écluse, alors là nous sommes à Lézine.
Voilà, Lézine qui est sous les eaux actuellement, mais les Amoureux de l'Écluse, oui, c'est à Lézine.
Donc Lézine dans le Tonnerrois, pour faire simple, entre à mi-chemin presque, entre Tonnerre et en Silfrant.
Tout à fait, à mi-chemin, oui, à mi-chemin, oui.
Alors Liliane, autre facette de votre écriture, roman historique, paru, je crois, l'an dernier.
Il est paru en septembre, en août-septembre, oui, l'année dernière, chez Lire à l'Est.
Chez Lire à l'Est. Les Dames du Temple. Alors là, nous sommes au XIIe siècle, et qui sont ces Dames du Temple, Liliane Mosca?
Donc c'est Élisabeth de Pin et Adèle de Blois qui ont existé. Donc j'ai écrit ce roman avec un historien qui est passionné de Templiers, de l'histoire templière. Donc ça, on voit beaucoup les femmes dans les monastères. On apprend un peu la vie qu'elles menaient en attendant leurs époux qui étaient partis aux croisades.
Alors que font ces dames de l'aristocratie, de la noblesse, tandis que leurs maris partent pour des aventures périlleuses, essayer de délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem?
C'est pareil, on ne peut pas trop le dévoiler, parce que, mais bon, elles ne font pas que de la tapisserie.
Sont-elles sérieuses?
Elles sont très sérieuses. Adèle de Blois a de grands projets, et on peut dire qu'elles... que ces dames œuvrent un petit peu, elles tirent un petit peu les ficelles de l'histoire, en fait, des Templiers.
Alors, il y a, Liliane Mosca, un de vos romans disponible chez France Loisirs.
Oui, il y en a eu deux. La jeune fille au silence est passée chez France Loisirs l'an dernier. Et maintenant, c'est Les Roses de Monsieur Constant qui se passent à Semur en Auxois.
Et puis, je rappellerai, Liliane, que l'an dernier, vous avez décroché haut la main le prix des lecteurs des bibliothèques du Morvan grâce à un de vos romans intitulé « Le jardin secret de Violette ». Là, c'est toujours la condition féminine, mais la Morvandelle du 19e siècle qui s'exile, qui va à Paris offrir son lait dans les familles bourgeoises.
Oui, c'est ça, c'est le choc des cultures, le Morvan pauvre du 19e siècle et la bourgeoisie parisienne et mon héroïne qui va vivre un destin pas ordinaire.
À l'instant, à notre micro, Liliane Mosca, enregistrée lors de la fête du livre d'Autun le 7 avril dernier. Je rappelle le titre de son dernier roman, La jeune fille au silence, dans la collection Terre de France. Et c'est disponible en librairie aux éditions des Presses de la Cité. Nous allons marquer un premier intermède musical. Juste après, je vous proposerai un entretien avec le romancier Laurent Cachard, qui signe aux éditions Le Réalgar, un diptyque. Premier roman intitulé Aurelia Krait, Ukraine 1904, et le deuxième tome paru l'an dernier a pour titre Aurelia Krait, Les Jardins d'Ellington. Il s'agit en fait d'un roman dont l'histoire s'ouvre en Russie au début du XXe siècle et s'achève en France à l'aube de la Première Guerre mondiale. Ce roman suit le destin de deux familles qui fuient les pogroms, traversant le continent de Yekaterinoslav à Odessa, puis Constantinople, Vienne, Paris, Lyon, Saint-Étienne. S'y mêle l'histoire de la sidérurgie, la question de l'identité ukrainienne écrasée par la grande nation voisine, celle de la judéité, de la fatalité aussi. La chance est son corollaire, le prix à payer. Autour d'émouvants portraits de femmes, le roman de Laurent Cachard interroge à travers l'aventure unique et reconstituée de son héroïne, l'âme slave et l'humanité dans son ensemble. On en parle juste après la pause musicale que nous vous proposons. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour un petit aperçu de la fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier.
Saberá lhe dar valor, dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Do tambor, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, lá, lá.
festa. Sei que muitos têm na testa o Deus só com um sinal.
Um sinal.
Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal.
De quintal.
Há também um cântaro. Quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar.
Pra deixar.
Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar.
Lá, lá, lá.
Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Aperçu de la fête du livre d'août, qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier à la salle de l'Hexagone, un événement organisé par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois, je vous propose cette fois-ci de faire connaissance avec le romancier Laurent Cachard, qui fait paraître aux éditions Le Réal Gard deux romans qui sont un diptyque et qui nous racontent l'histoire de deux familles juives qui quittent l'Ukraine pour fuir les pogrom. Nous allons bien évidemment en savoir tout de suite plus avec l'auteur que nous avons rencontré et que je vous invite à découvrir.
Je m'appelle Laurent Cachard, j'ai 55 ans, voilà, j'ai vécu 47 ans à Lyon et je suis depuis 8 ans maintenant à Sète, où je suis par ailleurs président du Festival du Livre. Voilà, je suis romancier, dramaturge, essayiste, je me suis essayé à peu près à tous les types, à tous les genres littéraires. Et depuis 2019, j'ai consacré un diptyque, c'est-à-dire deux volumes, aux aventures d'Aurelia Kreit, qui est un personnage de fiction, mais qui rentre, puisque c'est comme ça que je travaille en littérature, c'est qui rentre dans l'histoire réelle et travaillée. Donc Aurelia Kreit, qui est le titre du premier roman, sous-titré Ukraine 1904, Ukrainia 1904, je peux pas le dire en version originale, raconte l'histoire de deux familles juives qui doivent fuir les pogroms, l'Ukraine du début du XXe siècle et les pogroms qui menacent aux alentours. Voilà. Et donc, c'est ce que j'appelle dans le roman un attelage. Ce sont deux familles. Il y a donc quatre adultes et trois enfants. Et ils vont vivre une traversée assez longue, un exode dans la clandestinité et un exil qui fait qu'ils mettront 10 ans à traverser à la fois le pays, arriver en Turquie, à Constantinople, ensuite partir et traverser l'Europe centrale jusqu'à Vienne. Et ensuite, le point qu'ils visaient, c'est-à-dire la France, le pays des libertés, où vont peut-être un peu déchanter, puisque l'antisémitisme en France en 1913 quand ils arrivent n'est pas anodin non plus.
Donc ils arrivent, ces Ukrainiens exilés arrivent à Paris à la veille de la Première Guerre mondiale, donc 1913, comme vous l'avez dit, Laurent Cachard. Et
Que font ces Ukrainiens? Comment s'intègrent-ils dans cette France qui n'a pas vraiment l'habitude encore de voir arriver quelques Ukrainiens en tout cas?
Et pas du tout, ouais. D'autant plus que l'ironie veut qu'en passant par Vienne en Autriche, où on découvre aussi les fondements de la psychanalyse pour d'autres raisons et de la médecine contre le cancer, ça c'est ce sont des choses que j'ai abordées dans le roman, mais quand ils arrivent en... Alors je peux pas tout raconter, mais il y en a un qui manque à l'appel, bon, je peux pas tout dire ça, mais l'autre qui était le seul homme qui reste, enfin l'adulte qui reste, est devenu ingénieur et il commence à travailler à Paris. Et en fait, on lui confie assez rapidement les clés ou le projet de ce qui va devenir les cités du textile à Lyon. Donc c'est un projet qui verra le jour en 1921, mais l'aspect romanesque et puis par définition ce qui se passe en amont, parce que c'est pas un projet qui voit le jour du jour au lendemain, et on sait qu'il a été retardé par la guerre. Et donc là où la fiction, ce que j'aime faire moi, c'est quand la fiction rejoint la réalité, c'est que on a confié à Anton l'organisation de ces cités du textile.
Alors, un petit mot peut-être d'explication sur ces cités du textile.
Oui, bon, c'était un bonheur pour l'arrière-petit-fils et petit-fils et fils de Canu que j'étais, mais c'était de dire que les cités du textile, ben, c'est sur le principe d'autres cités ouvrières par exemple, c'est-à-dire que des grands patrons du textile qui étaient centralisés à Lyon principalement, avaient réfléchi à l'idée, plutôt que de sortir des petits ateliers et choses comme ça, et de construire des véritables villes, c'est-à-dire où on fournit à la fois le travail mais aussi l'habitat, le club de sport.
Un peu comme ce qu'ont fait les Schneider au Creusot.
Mais complètement, voilà, les Schneider au Creusot ou Peugeot
à Sochaux,
enfin, ou à Saint-Étienne, la mine, quand on organise, c'était bon, sur l'idée du patronat, mais le vrai patronat à l'ancienne, c'est-à-dire que on organise le travail, mais on organise aussi la vie des ouvriers. Enfin, il y a toute une réflexion qui est amenée là-dessus, qui est une espèce de mise en miroir aussi, parce que ce que les deux hommes voulaient apporter en Ukraine, parce que eux ils voulaient le bien des ouvriers et donc ils essayaient de travailler leur bien, et bien ils ont été trahis par ces mêmes ouvriers, et là ils se retrouvent un peu dans la position de l'exploité, mais ils essayent aussi de faire construire quelque chose. Alors évidemment la guerre éclate, donc ce projet va tomber à l'eau, ou en tout cas sera reporté, et puis Anton, l'homme qui reste, lui va proposer ses services à la fabrique d'armes de Saint-Étienne, à la Manu, comme ça. Et donc, on passe de Lyon à Saint-Étienne, ce qui n'est pas très loin. Et il va amener avec elle sa fille Aurélia, qui a 13 ans, 14 ans.
Et qui est ingénieuse et qui est aussi
elle le suit, elle ne s'est jamais amusée avec des poupées ou des jeux d'enfants, comme ça. Elle s'est toujours amusée avec les plans de son père pour comprendre les choses. Et en fait, bon, bah, ça, c'est du romanesque, mais à un moment donné, c'est elle qui va déclencher, alors qu'on imagine, vous savez, l'armada de savants qui sont penchés sur le mécanisme de la mitrailleuse Otchis à l'époque, comme ça, et en fait ils sont complètement bloqués par un point technique, et je fais Aurélia analyse, et elle donne la solution, elle fournit la solution, ce qui est un petit effet romanesque assez intéressant comme ça.
Alors, Aurélia, votre héroïne, est certes brillante, mais elle s'humanise aussi, parce que face au désastre humain de cette première guerre mondiale, elle s'y engage comme ambulancière.
Complètement, parce qu'en fait, à la Manu, à Saint-Étienne, elle est abritée par, pour pas rentrer à Lyon tous les jours comme ça, elle est logée chez quelqu'un. Et en fait, elle a deux copines, c'est la plus jeune évidemment, mais il y a trois femmes, donc il y a aussi une réflexion sur le féminisme, c'est l'origine du féminisme comme ça, où les femmes qui travaillent dans l'usine commencent à se dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas tous les droits comme ça. Et puis elles se rendent compte que très vite, que travailler pour une usine d'armes, pardon, qui va envoyer des bombes sur les gens, et ben ça leur va pas. Donc elles s'engagent toutes les trois, elles s'engagent comme ambulancières, et elles partent sur le front de l'Est. C'est le début du deuxième volume. Alors c'est deux volumes qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, parce que on retrouve Aurélia à 14 ans comme ça, qui apprend les bases du métier. Alors quand je dis ambulancière, ça veut dire que très vite c'est ambulancière, c'est aussi infirmière, c'est pas loin de médecin, parce que on est surtout dans le principe du triage. Donc le deuxième volume, il commence sur le front de l'Est, c'est une boucherie, hein. On s'attendait pas à ça, parce que l'État français, quand même, ou même les autres États s'attendaient pas à ce que la guerre soit longue, ils pensaient que ça serait court, et c'est pas ce qui s'est passé du tout.
Un petit mot sur, bien sûr, il y a les brancards, mais il y a aussi une petite survivance d'une exposition internationale qui avait donc eu lieu à Lyon. quelques mois avant que n'éclate
la guerre a commencé quand, en plein milieu de l'exposition internationale à Lyon, qui était au quartier Tony Garnier, comme ça. Et d'ailleurs, moi, j'aurais pu faire l'économie, enfin, en termes d'énergie, parce que ben, je suis ravi qu'il existe, mais j'avais pas envisagé de faire un deuxième volume. Et puis c'est un site que je consultais d'historiens comme ça qui a raconté cette histoire-là, c'est que l'État français était complètement au dépourvu de matériel pour brancarder les blessés. Ils ont tout réquisitionné, ils sont allés jusqu'à réquisitionner les pousse-pousse qui étaient au pavillon chinois de l'exposition internationale, et que Aurélia et ses amis retrouvent sur le front. C'est-à-dire, c'est la première vision. D'ailleurs, le Linky Pete, la première phrase du volume, c'est la vision des pousse-pousse qui les a surprises. C'était ça le principe. Donc c'est une anecdote, mais pour dire à quel point c'était quelque chose de totalement inattendu.
Le romancier Laurent Cachard, enregistré à la fête du livre d'Autun, qui évoquait Aurélia Krait, Ukraine 1904. Nous allons retrouver Laurent Cachard juste après la pause musicale que nous allons vous proposer, pour qu'il évoque cette fois-ci Aurélia Krait, Les Jardins d'Ellington. Cette fois-ci, ce roman aborde des périodes rares de la Première Guerre mondiale, le front de l'Est en France, l'histoire du corps expéditionnaire russe et la mutinerie de la Courtine en 1917. Explication du romancier Laurent Cachard juste après la pause musicale que nous vous proposons. C'est Wagon Livre sur Radio Aperçu de la fête du livre d'Autun, et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Tout de suite dans ce boîte lamentable, toyé du noir accoudé à une table, le gin a coulé jusqu'au lever du jour, comme une rivière sans retour. J'étais pas là tant qu'est un idéal, je finissais mes nuits pas dans l'état normal, des âmes se battaient pour un peu de mon amour. Rivière sans retour, je vivais dans un mirage, comme si j'existais pas vraiment. Les gens disaient à son âge, pour enfant, ces instants près de toi m'ont paru si courts. Le poids des choses m'a soudain semblé moins lourd. J'ai pensé le bonheur faut pas passer. C'est une rivière sans retour. Talons claqués sur le boulevard bancal, ta veste, regard noir, ces petits cris d'animal, enlacés dans les premières lueurs du jour, coule la rivière sans retour. Je vivais dans un mirage, comme si j'existais pas vraiment. Quiconque pour un prouver le contraire, l'étincelle d'amour fait briller autour. Vive la rivière sans retour. L'étincelle d'amour fait briller autour. Vive la rivière sans retour.
Poursuivons, si vous le voulez bien, cet aperçu de la fête du livre d'Autun en retrouvant le romancier Laurent Cachard, qui signe aux éditions Le Réal Gare deux romans historiques qui sont les débuts d'une trilogie. On attend le troisième roman courant 2025. Premier roman, Aurélia Kreit, Ukraine 1904. Donc le récit de deux familles juives qui quittent l'Ukraine pour fuir les pogroms et pour fuir aussi l'oppression russe. Cette famille d'Ukrainiens se retrouve à la veille de la Première Guerre mondiale en France et Aurélia Kreit, Les Jardins d'Ellington, le deuxième volume de cette saga historique, aborde des périodes rares de la Première Guerre mondiale, le front de l'Est en France, mais également l'engagement de la Russie du tsar Nicolas II aux côtés de la France et de ses alliés dans le premier conflit mondial qui l'oppose à l'Allemagne. Laurent Cachard.
C'est en fait l'histoire du corps expéditionnaire russe en France. C'est-à-dire que Nicolas II, en échange de matériel, parce que la Russie était totalement appauvrie en termes de matériel, Nicolas II a fourni 20 000 hommes en deux corps expéditionnaires, en deux régiments en France. C'est donc deux fois 10 000 hommes. Le premier est parti en janvier 1915, alors avec une histoire rocambolesque, parce que comme il pouvait pas atteindre passer par la péninsule nordique, Moscou, Arkhangelsk et la péninsule nordique parce que tout était gelé. Ils ont quand même mis les 10 000 soldats dans le transsibérien. Ils ont fait 8 000 km de train dans le plus grand secret, donc avec les wagons qui étaient scellés. Et pour arriver en Chine sous pavillon japonais à l'époque, à Dalian, et des bateaux français les attendaient là-bas pour leur faire la traversée dans l'autre sens, c'est-à-dire de la mer de Chine jusqu'au canal de Suez, ce qui donne sensiblement 3 mois de navigation dans des conditions dantesque, est énorme pour des gens qui sont pas marins. À titre indicatif, ceux qui sont partis en juillet, ils ont mis une semaine pour allier Arkhangelsk d'Arkhangelsk jusqu'à Brest. Et l'histoire, alors qu'une histoire qui est vérifiée, parce que je me suis appuyé aussi sur des archives locales, c'est-à-dire que ce soit à Marseille ou à Brest, voir défiler, parce que ça a été un moment monumental dans les villes de Marseille ou de Brest, voir défiler les Russes qui étaient des Übermensch, c'est-à-dire que les gens n'avaient jamais vu des soldats aussi costauds, aussi grands, aussi fiers. Enfin, c'était quand même... Et ces Russes-là, alors ça, l'histoire commençait plutôt bien, mais ils ont été très très maltraités par l'armée française. C'est-à-dire qu'on les a envoyés au casse-pipe, hein, que ça soit à Verdun ou au Chemin des Dames principalement. Dans un extrait, un des soldats écrit à sa famille en disant, ça c'est véridique, hein, qu'ils étaient traités moins que les Africains. Donc ça donne une indication. Et l'histoire de ce corps expéditionnaire, et ben Aurélia qui est un personnage de fiction, mais elle va être chargée avec un autre membre de l'attelage d'organiser ça en amont. Donc elle prépare l'arrivée qui se fait dans le plus grand secret, évidemment. Alors il y a un petit peu d'espionnage, il y a l'idée qu'il y a des gens qui sont intégrés, parce que c'est vrai, il a fallu que ça soit préparé dans l'État français en amont, il fallait que ça se passe dans la clandestinité, et puis c'est la troisième partie de ce roman, les romans sont construits tout le temps en trois parties, se déroule à la courtine, qui est un épisode très...
Alors ça, c'est un épisode méconnu.
Alors, c'est un épisode officiel mais méconnu. C'est-à-dire que là, comment dire, la révolution russe commençant à poindre comme ça, eh bien les soldats ont déjà, les Russes qui étaient des frères d'armes, hein, qui étaient une compagnie qui était très solidaire, mais les Russes ont des visions complètement différentes de l'avenir. Il y a entre ceux qui veulent rentrer en Russie pour se battre avec les bolcheviks pour conquérir, collectiviser des terres.
Oui, participer à la révolution, voilà, et ceux qui veulent rester.
Ou les autres qui veulent garder leur propriété ou loyaliste.
Il
y a aussi ceux qui se disent que c'est trop dangereux et que donc ils ne rentreront pas. Donc en fait, pour ce qu'on connaît nous dans l'opposition, c'est qu'il y a eu les rouges d'un côté, les bolcheviks, et les blancs, donc les loyalistes, les fidèles au tsar, etc. Et l'État français, voyant que ça se gâte, pour pas démoraliser les troupes françaises, eh bien il retire les Russes du front et il les envoie dans un camp à la Courtine. Alors il reste sensiblement 10 000 hommes sur les 20 000, hein. Ça veut dire qu'il y en a 10 000 qui sont
morts.
Donc
la Courtine, on situe géographiquement, Laurent ?
C'est dans le Limousin. C'est sur le plateau des 1000 vaches. C'est quelque chose de très pittoresque comme ça. C'était un camp de prisonniers qu'ils ont évacué. Et puis, pour intégrer, donc, on assiste... Aurélia, par exemple, fait partie des gens qui vont préparer la Courtine avant que les troupes arrivent, comme ça. Et puis, alors, c'est pittoresque parce que les Rouges acceptent, donc les bolcheviks acceptent de quitter le front et d'être enfermés dans un camp, mais à condition qu'ils gardent leurs armes, ce qui n'était pas prévenu au départ, à condition qu'il n'y ait plus de supérieurs, qu'il n'y ait plus d'exercice physique pour des soldats. Donc ils passent leur temps très officiellement à boire, à chanter, à danser et puis à se battre entre eux et à tout discuter sous le fait de soviet. Toutes les discussions sont collectivisées. Voilà. Les blancs, ne les supportant pas, sont partis habiter soit à l'extérieur, soit dans des petites communes autour de la Courtine. Et puis il y a l'épisode qui est un épisode qui est connu dans l'histoire de France et l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que à un moment donné, après beaucoup d'hésitations et surtout de report de responsabilité entre la Russie et la France, eh bien c'est l'État français qui donne l'assaut pour libérer ce qu'on a appelé les mutins de la Courtine, comme ça, pour libérer le camp. Comme ça, il reste à peu près 5000 hommes. C'est un assaut qui va être extrêmement sanglant et l'histoire de France. Et l'histoire officielle retient quelque chose comme une centaine de morts, alors que vraisemblablement il y en a eu, même beaucoup moins, ils en annoncent beaucoup moins, alors que vraisemblablement on approche des 700 ou 800 morts.
Alors dans le tome 2, donc Aurélia Krait, votre héroïne, je rappelle le sous-titre du tome 2, Les Jardins d'Ellington, et c'est paru l'an dernier aux éditions Le Réalgar, elle a des accointances politiques Elle va se laisser un peu séduire par les idées du bolchevisme et de la révolution russe débutante, émergente.
Là, vous me posez une colle parce que ça sera le sujet du troisième. Et ça, c'est l'immense liberté du romancier. C'est-à-dire que Aurélia, le personnage, je peux en faire absolument ce que je veux. Mais je la vois pas, moi, du tout comme étant vraiment une intégriste bolchevique ou quoi que ce soit. Je la vois aller se battre pour la liberté, retourner donc dans le pays de son pays d'origine, hein, mais retourner pour se battre pour la liberté de ses frères et sœurs, comme ça, mais je la vois féministe, je la vois, et puis surtout elle va porter la voix et devenir ce que sa mère avait globalement prédit pour elle en une forme de vision, hein, comme ça, hein, une forme de vision, puis c'est l'allusion, parce que tout ce travail-là, c'est aussi une question sur la question juive, c'est-à-dire que la mère la voyait pour la protéger quand elles sont parties, elle la voyait comme appelée à de grandes destinées pour l'indépendance de l'Ukraine, donc je la vois bien dans l'armée rouge, à tenir son rôle, mais à défendre aussi la part d'ukrainité qui est importante, et puis peut-être même un peu de féminisme, parce que c'est un personnage qui a un gros caractère, Aurélia, quand même.
Alors, en attendant le troisième tome de cette saga historique, je rappelle les titres des deux premiers tomes disponibles aux éditions Le Réalgar, Aurélia Krait, Ukraine 1904, et Aurélia Krait, Les Jardins d'Ellington, sous la plume du romancier Laurent Cachard, que nous avons enregistré le 7 avril dernier lors de la fête du livre d'Autun. Autre écrivain que nous avons rencontré à la fête du livre d'Autun, il s'agit de Christine Bonnard qui signe un polar aux éditions Coxigru et qui a pour titre « Le cimetière des éphémères ».
Je suis Christine Bonnard, j'habite à Hanau. J'ai écrit plusieurs romans, dont le dernier s'appelle « Le cimetière des éphémères ». J'ai commencé d'écrire en 2014, j'ai publié 3 romans aux éditions de l'Armançon. Avant, j'étais fonctionnaire et j'avais pas tellement le temps d'écrire, c'est pour ça que je me suis mis à écrire plus sur le tard, on va dire. Je suis d'origine morvandelle. Je suis née à Villefranche-sur-Saône, mais je suis d'origine morvandelle par ma mère. Et donc j'adore cette région, c'est pour ça que je m'y suis installée et que j'écris des romans qui se passent, dont le décor est le Morvan.
Alors il y a eu aux éditions Coxigru, installé à Besançon, dans le département du Doubs, Le Chat des Ombres, qui a d'ailleurs été finaliste du prix de littérature du Morvan en 2021, et donc, plus récemment, Le Cimetière des Éphémères, dans la collection Polar et Nature, parce que c'est la ligne éditoriale des éditions Coxigru. Alors, Christine Bonnard, en fait, ce roman met en avant un jeune homme qui découvre qu'il a de la famille, bon, jusque-là, mais surtout de la famille en Bourgogne et plus précisément dans le Morvan.
Oui, c'est l'histoire, le personnage principal est un jeune homme qui habite Paris et qui voyage beaucoup et qui ne s'est jamais posé de questions sur ses origines. Et il découvre au décès de son grand-père, en fait, qu'il a de la famille et des racines dans le Morvan. Donc, écrire ce roman, c'était aussi expliquer comment, quand on connaît nos racines, quels sont l'attachement et l'importance qu'on leur porte.
Et alors, mort de ce grand-père, on est donc dans les environs de Autun, donc dans le Morvan de la Saône-et-Loire. Et il est charmé comme beaucoup de... Alors, il y a des étrangers. On sait qu'il y a beaucoup de Hollandais qui se sont installés en Morvan. On sait qu'il y a eu, qu'il y a un peu maintenant ce qu'on appelle les néo-ruraux qui ont parfois des comportements ou des idées particulières. Hein, là, les cohabitations sont parfois compliquées avec ces nouvelles populations qui néanmoins ont, comme j'allais dire, les autochtones, je le dis sans mépris et sans fantaisie, mais ont cet amour du Morvan. Et cet amour du Morvan, Christine, vous dites que parfois certaines personnes ont du mal à en trouver les raisons.
Oui, c'est cela. C'est en fait, souvent, le Morvan, ben, quand on vient dans le Morvan, soit on aime, soit on n'aime pas. Et je voulais expliquer comment soit on tombe amoureux du Morvan ou comment sont perçus aussi les étrangers, entre guillemets, qui arrivent dans le Morvan. Et en fait, au fil de l'écriture, c'est un polar, donc il y a une intrigue, mais je me suis aperçue aussi que peu à peu se profilait le problème des coupes rases, qui est un sujet assez polémique dans le Morvan. Donc mon personnage va être mêlé à ce genre de problème.
Alors les coupes rases, ce sont ces morceaux entiers de forêt disparus, hein, c'est des carrés, des rectangles entiers, et effectivement, c'est assez dramatique à voir. Alors, c'est un désastre écologique? Est-ce que c'est vraiment à dénoncer? Est-ce que c'est pour le, ou c'est une surexploitation ou une mauvaise gestion de la forêt morvandelle? C'est complexe?
Alors moi, je suis pas là pour juger. Moi, je donne mon appréciation dans le roman. Mais en fait, il y a dans mon histoire, ces fameux forestiers qui font des coupes rases, ils font vivre aussi des gens. C'est-à-dire que le garagiste du village leur vend de l'essence, répare leurs engins. Et il y a les écologistes qui sont contre et qui donc ont leur raison aussi. Donc après, ça sera à chacun de juger. Moi, je donne mon opinion. Après, en lisant, vous la connaîtrez sûrement.
Donc, il y a un mort, forcément, dans ce polar, le cimetière des éphémères. Donc, en fait, Christine Bonnard, il faut jouer l'équilibre, le polar, le suspense, et puis aussi la nature, la défense de l'identité morvandelle et du Morvan, cadre naturel idyllique tout de même parfois, parce que c'est vraiment sublime, avec ces petites routes serpentées comme ça, un peu dangereuses parfois, mais on se sent vite perdu dans le Morvan et c'est magnifique.
Oui, c'est sûr, moi je ne vais pas vous en dire du mal parce que j'adore vivre là. Pour moi, le Morvan c'est une île, déjà c'est un havre de paix et en fait on n'y vient pas par hasard. Et donc il n'y a tellement pas de... Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'aéroport, il y a très peu de gares, donc on n'y vient pas par hasard. Donc pour moi c'est un cadre exceptionnel. Et donc c'est vrai que dans le cimetière des éphémères, il y a un mort qui va obliger mon personnage principal à enquêter et à essayer de découvrir la vérité pour défendre justement ses nouvelles idées et sa famille qu'il vient de découvrir.
Christine Bonnard, à l'instant, à notre micro enregistré lors de la fête du livre d'Autun, c'était le 7 avril dernier. Christine Bonnard, dont je rappelle le titre du roman dont il vient d'être question, Le cimetière des éphémères, disponible en librairie aux éditions Coxigrue. Nous allons marquer un nouvel intermède musical juste après. Nous ferons connaissance avec Carine Huette, écrivain voyageur qui signe un récit de voyage qui a pour titre « L'âne et la route » aux éditions « Le mot et le reste ». À 68 ans, l'auteur s'est lancé en éclaireur sur le sentier de randonnée de la route inaugurée l'année suivante, accompagné d'un âne. Et les deux marcheurs suivent un itinéraire de transhumance alpin de 500 km de Croix en Provence jusqu'en Italie. Alors ils vont rencontrer quelques humains, mais leurs compagnons de voyage sont surtout le ciel et le paysage de garrigues et d'alpages. À découvrir au micro de Wagon Livre, juste après la pause musicale que nous vous proposons. Nous sommes ensemble jusqu'à midi aujourd'hui pour vous offrir un aperçu de la fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier.
How can you tell banane. La vie en rose in Luxembourg. Taste of an apple core seems so much sweeter than before. How does it feel when love comes around? First time on the stroke of a midnight kiss, I wonder who else could believe that love was made for you and her.
Dimanche 7 avril dernier, lors de la fête du livre d'Autun, nous avons rencontré un écrivain voyageur. Elle s'appelle Karine Huette et vient de faire paraître aux éditions Le Mot et le Reste un récit de voyage, L'âne et la routeau. À 68 ans, l'auteur s'est lancé à pied vers les Alpes depuis la Basse-Provence avec l'aide d'un bourricot. Ils ont bivouaqué à leur gré et ils ont été les éclaireurs sur un sentier de grande randonnée qui sera inauguré l'année suivante et qui s'appelle la Routo. Cet itinéraire suit sur 500 km l'une des anciennes drailles de transhumance de la Croix jusqu'en Italie. Alors l'auteur finira-t-elle par rencontrer celui qui par excellence vit au diapason de la terre et du vivant, le berger transhumant? Une certitude, au jour le jour, elle découvre les aléas d'une équipée avec un compagnon à longues oreilles, pour le meilleur et pour le pire.
Je suis Karine Huette, je suis écrivain voyageur. D'habitude, je voyage sur la mer, à la voile ou en kayak, des aventures assez engagées, parfois à pied mais sur des îles. Mais là, pour la première fois de ma vie, en 2021, j'ai réalisé le rêve de marcher au long cours avec un âne qui portait, alors on dit un âne batté, moi je dis un âne bateau puisque je viens de la mer, qui portait mes affaires donc, et de marcher depuis Arles jusque dans les Alpes italiennes sur la Routo, qui est une ancienne draille de transhumance des troupeaux de mérinos d'Arles vers les estives italiennes. J'en ai tiré un récit qui s'appelle « L'âne et la Routo » aux éditions Le Mot et le Reste.
Et qui est disponible en librairie et qui est sorti récemment.
Il est sorti vendredi.
Alors, tout frais, sans encore l'encre et l'imprimerie, vous-même... Vous avez connu beaucoup de paysages exotiques dès l'enfance, en fait.
Oui, oui, oui. J'ai été trimballée dans toutes sortes de bouts du monde, déjà par mes parents. Et puis ensuite, j'ai continué, avec une prédilection, comme je disais, pour les paysages en bord de mer.
Alors, j'aimerais que vous nous parliez justement de ce périple sur la Routo, vous l'avez dit, de cette belle cité d'Arles jusqu'en Italie. Alors, il y a la Routo avec une lettre minuscule à l'initiale, puis il y a la Ruto avec une majuscule.
Tout
Quelle
à
est
fait.
La distinction, Carine Huet?
Voilà. Far la Ruto, c'est une expression occitane utilisée par les bergers occitans, qui veut dire faire la transhumance à pied. Voilà. Et ça se fait plus maintenant à pied, ça se fait toujours, la transhumance des ovins, des moutons, mais ça se fait, comme on le sait, en bétaillère. La Ruto avec une majuscule, c'est un chemin de grande randonnée labellisé en 2022 GR69, qui a été retrouvé, c'est une des quatre anciennes grandes drailles de transhumance d'Arles vers l'Italie, qui a été retrouvé par la Maison de la Transhumance de Salon de Provence. Ça a été beaucoup de travail, ça a pris 15 ans de retrouver sur les vieux cadastres, de décrocher les autorisations de passage pour aménager, baliser ce chemin. Mais moi, je l'ai fait en éclaireuse l'année d'avant son balisage. Donc, c'était une petite aventure.
Alors, l'aventure, elle est humaine et elle se double de la complicité d'un animal, en l'occurrence un âne.
Alors complicité,
non,
c'est...
pas de complicité. Vous aviez tout de même besoin de lui pour
oui,
porter
tout à
un peu le matériel, puisque vous choisissez de bivouaquer. Il faut que nos auditrices
oui,
comprennent, vous
ne
vous arrêtez pas dans des gîtes
voilà,
avec
donc...
table d'hôtes, vous dormez dans la nature, à la belle
oui,
étoile.
Oui, donc j'ai
une véritable aventurière.
Tente, je dois porter de l'eau.
C'est vous qui portez ou c'est l'âne?
C'est l'âne. Justement, c'est la raison d'être en même temps que la tendresse d'un compagnon, croyais-je. Donc c'est vrai que le soir au bivouac, il est content, il broute, ça se passe fort bien, je le brosse. Voilà. Mais pendant le chemin, cet animal n'est pas de tout repos pour celui qui le traîne parfois.
Il est caractériel.
Oui, pas certain.
Beaucoup.
Eh bien.
Alors c'est un âne ou une ânesse?
C'est un âne. Oui, disons que je vais un peu déflorer le sujet, mais le premier, il y en a deux en fait. Le premier. Il était tellement insupportable, il traînait tellement la patte. On m'avait dit que les ânes marchent à 3 km/h quand ils sont chargés, comme les moutons et comme une vieille dame comme moi. Donc c'était parfait. Malheureusement, cet âne s'est mis à marcher à 1 km/h, je pense. J'ai tenu 20 jours parce que j'avais quand même une relation la meilleure possible, mais ça me mettait en
ça
rage.
Ça vous exaspérait
voilà.
un peu.
Du coup... Finalement, je l'ai fait remplacer par un deuxième âne qui s'est révélé tout à fait charmant.
Et qui a un nom amusant.
Oui, un nom qui laissait présager qu'il serait très bien, très zen, c'est-à-dire il s'appelle Cannabis.
Donc vous avez, alors vous dites normalement, la Ruto, on peut la faire en un mois.
Oui.
Vous avez pris le temps.
Oui,
l'objectif, c'était bon, de savourer le paysage et puis aussi, quelque part, d'épouser une histoire humaine et animale encore.
Absolument. Nous, on marchait sur les traces de millions de petits sabots qui passent par là depuis le Moyen-Âge. Hein. La grande transhumance à pied, ça a commencé au Moyen-Âge. Donc,
mais aujourd'hui, c'est obsolète.
C'est pas obsolète, c'est obsolète à pied, quoique... Il y a quand même une douzaine de troupeaux qui le font encore, mais sur des petites distances moyennes, disons. Mais ce n'est pas obsolète dans la mesure où l'élevage transhumant existe plus que jamais. Le transport se fait en bétaillère. Et ce qui a été merveilleux, c'est que j'ai traversé des paysages façonnés par le pastoralisme au cours des siècles, mais à l'arrivée, j'ai fait le chemin à l'époque où ça se faisait, c'est-à-dire au printemps. Et à l'arrivée, j'ai retrouvé effectivement les bergers et les troupeaux qui venaient d'arriver en camion dans les estives. Et là, j'ai pu... ils avaient un respect pour moi parce que je venais de faire une transhumance à pied avec une bête quand même. Une bête dont ils connaissent un peu le caractère. Et donc, ils m'ont respecté. Ils étaient prêts à s'ouvrir au sujet de leur métier. Et j'ai lié amitié avec une bergère que je vois toujours 3 ans après, avec qui je vais garder les brebis quand elle est en hiver, quand elle est proche de chez moi. Et j'ai pu découvrir ce métier qui me fascinait, que j'avais envie de connaître depuis toujours, en fait. Parce que c'est un des derniers métiers en lien vraiment avec le vivant, avec la terre... Et puis c'était un élevage qui est vraiment vertueux, puisque les bêtes ne mangent pas d'aliments industriels. Les bêtes mangent uniquement de l'herbe, que ce soit en plaine, dans la croix, que ce soit dans les belles estives alpestres. Et ce sont des bêtes qui sont heureuses.
Bien-être animal,
c'est tout à fait
très important, tout à fait. Effectivement. Mmh. Mais alors cette transhumance de Arles jusqu'en Italie, le but c'est pour les faire changer de pâturage, c'est pour suivre les saisons, ou c'est un déplacement qui est lié, qui est économique?
Ben c'est les deux. C'est-à-dire que en Croc, c'est-à-dire la Camargue, la Croc, la Basse-Provence, vous imaginez bien qu'en été c'est tout sec. Donc les bêtes paissent là en hiver, au début du printemps, et puis après. C'est méditerranéen, c'est un phénomène méditerranéen et même plus qu'au-delà. Hein. Et donc, on les fait monter dans des zones où l'herbe commence à pousser une fois que la neige est fondue, c'est-à-dire l'herbe est là en juin. Et après, en montagne, il y aura une bonne herbe tout l'été. Et les troupeaux monteront petit à petit. Ils ont un quartier de juin en plus bas. Ils montent un peu, c'est le quartier de juillet. Ils montent encore, c'est le quartier d'août. Fin août, ils redescendent parce que l'herbe est repoussée. Voilà, c'est tout un art, l'art du berger transhumant, qui est fascinant, qui est intéressant.
Et cette solitude avec un âne à ses côtés, dans des paysages sauvages, où parfois on doit se sentir un peu seul, est-ce que la peur vous a parfois frôlé?
Oui, la peur me frôle.
Je pense
mais...
à la nuit, puisque vous dormiez.
Oui,
à la
bien
étoile.
Sûr, d'autant qu'il y a les sangliers qui sont terribles, les sangliers, les chevreuils qui font un bruit absolument effrayant. Quand on ne sait pas ce que c'est, on a peur que ce soit quelqu'un qui est en train de se faire égorger à côté. Mais. Une fois qu'on a compris, oui, on a
mais
la
est-ce
peur.
Est-ce que l'âne a peur de ces bruits des autres?
L'âne a peur du sanglier, effectivement. Oui, oui, ça peut lui faire très, très peur. Oui, oui, oui. Je dois le. Une fois, il s'est. Au bout de sa longe, il est attaché, mais avec une longue longe la nuit pour qu'il puisse brouter tout son soul. Mais quand un sanglier est apparu, il a voulu casser sa longe, il s'est emberlificoté dedans, j'ai dû aller le secourir.
Heureusement que vous étiez là, chère
Karine. Ah oui, oui, tout à fait.
Mais pas de mauvaises rencontres, je pense aux loups notamment, parce qu'on dit que les loups réapparaissent en France, mais qu'ils viendraient de l'Italie.
Tout à fait. Et je pense qu'ils étaient parmi nous, enfin dans la forêt, qu'ils nous voyaient passer. J'avais peur, effectivement. J'avais pensé à cette éventualité. On n'en a pas rencontré. Et eux,
mais
nous ont
peut-être
vu passer. Est-ce que
vous aviez, je ne sais pas moi, des fusées éclairantes ou quelque chose pour les effrayer?
J'avais pensé prendre mon camping-gaz et j'avais un pistolet à poivre, mais je ne sais pas si ça aurait vraiment fait l'affaire pour un loup. Voilà.
Bon, conditions climatiques plutôt correctes?
Oui.
Pas de tempête, pas de pluie ou
d'averses violentes? Il y a eu un épisode affreux aussi en Italie, mais je ne vais pas vous le dévoiler, mais dû à un orage... J'ai failli perdre l'âne.
À lire donc dans L'âne et la route aux éditions Le Mot et le Reste. Alors, puisque je vous ai encore devant notre micro et je vous en remercie, vous traversez donc la frontière, passage de la France en Italie. Or, vous faites cette belle traversée avec votre petit âne, votre compagnon des beaux et des mauvais jours, Cannabis, donc, c'est en 2021, au moment où le monde est confiné.
Oui, où on
et
a
vous,
besoin.
Vous êtes en pleine nature avec un âne.
Voilà. On a besoin d'un pass, d'avoir une vaccination à jour. Or, moi, je n'ai que la moitié de la vaccination. Donc, j'ai peur de rencontrer des gendarmes, des contrôles. Je passe la frontière et là, soudain, évidemment, je vois Polizia. Voilà. Et les gendarmes ralentissent, on est repérés. C'est affreux. Ils commencent même à prendre notre signalement en nous prenant en photo. Et je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Et finalement, ils terminent. Que bella, Gino! Bon viaggio! Et donc, l'âne, comme souvent, comme tout au long de ce parcours, a été un véritable passeport amical. Voilà.
Un véritable sésame. Et en plus, très jolie expression que vous avez prononcée tout à l'heure. Vous m'avez dit, c'est un aspirateur à tendresse.
Voilà.
Vous dites,
oui.
Les humains voient un âne et...
Ils se précipitent dessus pour le caresser, oui.
Et alors, vous avez cette citation de Yves Artufel, pardon, en... liminaire exergue, à votre oui. en exergue. L'enfance a laissé son âme aux ânes, quelques sentiers ont son visage. Et je rappelais aussi Francis Jammes. Avec
oui,
sa prière.
Oui, parce que j'ai
pour aller au paradis avec les ânes.
Voilà, il est cité dans ce livre parce que je faisais aussi des lectures en chemin, et des lectures de textes sur les ânes, de textes littéraires, dont celui que vous venez de citer.
Vous avez pensé à Stevenson aussi ?
Bien sûr, j'avais un extrait de Stevenson. Mais il y a beaucoup d'écrivains, Hugo, Francis Ponge, Prévert.
À l'instant, un autre micro enregistré dimanche 7 avril dernier à la fête du livre d'Autun, Karine Huette, pour son récit de voyage « L'âne et la routeau », un récit disponible aux éditions Le Mot et le Reste. Si vous avez manqué une partie de cette émission ou si vous n'avez pas eu le temps de noter les titres et les références des ouvrages dont il a été question, pas de panique, on se rend sur le site d'archives de Wagon Livre www.yannickpetit.fr. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 20 avril, toujours à 11h sur Radio, pour la deuxième et dernière partie de cet aperçu de la fête du livre d'Autun. Nous entendrons le photographe Laurent Janin qui s'est rendu fin 2022 à Erevan en Arménie, donc dans le sud Caucase, pays qui a pour voisins la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Iran, un des plus anciens pays chrétiens au monde, et nous reviendrons avec Laurent Janin sur ce qu'il a découvert au cours d'un voyage de plus d'un mois dans ce pays pris entre la mer Noire et la Caspienne. Nous entendrons également Christophe Néjon, ancien journaliste, spécialiste des questions d'actualité africaine. Il connaît bien le Libéria. Il en a tiré d'ailleurs 3 romans disponibles aux éditions des Presses de la Cité. Libéria, Mambo Point Blues et Kalak Mambo, paru cette année. Christophe Néjon, que nous entendrons samedi prochain dans Wagon Livre, ainsi que Arnaud Friedman pour son roman « L'invention d'un père ». C'est aux éditions La Manufacture de Livres. À suivre donc le 20 avril prochain à 11h sur Radio. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci de votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.